Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, on ne sait jamais quoi offrir à nos ados. Mais cette année, on a trouvé le cadeau idéal. 2 heures dans leur forfait. Et vu le prix, c'est aussi un cadeau pour nous. Alors, c'est qui les parents trop géniaux?
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez du forfait starter 2 heures à 0€ par mois pour les clients box pendant un an, puis 5€ par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 8 janvier 2018 pour toute nouvelle souscription. Prix multipack sans mobile avec engagement 12 mois.
RMC, le super football show, l'after foot, Gilbert Brébois.
On a tous quelque chose en nous, Léo Messi. J'avais sa coupe de cheveux, mais c'est fini. Gilbert a son côté béni, oui, oui. Daniel, il a sa taille et c'est tant pis. Quelque chose, Lionel Messi. Didier, Polo, Fredo et mon Fifi. Ils ont un peu son style en boîte de nuit. Tout seul au bar avec un bon jus de fruit. Quelque chose, Lionel Messi. Lionel Dian, son prénom, ça lui suffit. Jérôme Thomas, il a, au fait, c'est qui? C'est qui Jérôme Thomas déjà? Messi! Messi! Quelque chose, Lionel Messi. Merci.
Ah, il est bon.
Et voilà, l'hommage de l'after à Johnny ce soir. On en a encore d'autres. Hein,
c'était cool, ça. C'était quelle année, ça?
Ah, oui, au moins 3-4 ans.
Ouais,
tu faisais ces chansons.
Même plus que ça.
Celle-là, je m'en souvenais pas du
tout. Ça fait partie de la légende de l'after.
En la réécoutant, je me suis souvenu, mais j'avais oublié qu'il en avait autant, en fait, sur Johnny.
Alors, Ligue des Champions, programme de l'after. Et, je le disais donc, un sondage CSA, RMC, BFM Sport, concernant l'équipe de France. Vous allez voir, avec des choses intéressantes, on a posé plein de questions à un panel de Français sur la Coupe du Monde, comment ils la voyaient, les Deschamps, les joueurs français, tout, vous allez voir. On exploitera ça ensemble tout à l'heure. On est toujours avec Alexandre, supporter de Monaco, qui revenait sur le mercato, sur les recrues qui n'ont pas eu de préparation, d'autres qui sont jeunes. Jérôme, qu'est-ce que tu réponds, toi, aux arguments d'Alexandre?
Non, moi, je suis les arguments et au contraire, je pense que ici, j'ai pas le souvenir qu'on ait vraiment mis l'accent, du moins critiqué les recrues. Les recrues, bien sûr, comme toute recrue, il faut s'habituer encore plus au contexte monégasque. Donc moi, je leur laisse le temps et je suis indulgent envers ces recrues. Par contre, où je suis moins indulgent, c'est quand je vois les lacunes défensives de l'AS Monaco au niveau. Hier, Daniel parlait de caractère du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, mais l'AS Monaco cette année, au niveau caractère en Ligue des Champions, c'est catastrophique. L'envie de se sublimer, l'envie
de bien
défendre.
Tu vois que ça veut dire quelque chose de caractère là.
Ah, oui, non, mais sur certaines équipes, oui, ça, je te rejoins. Et souvent on a mis ça en avant, et surtout la charnière qui a été encore mise ce soir,
Jefferson
et Glick. Ouais, il y a un problème de d'agressivité, ce qui a fait leur force l'année dernière. Alors oui, ils étaient bien entourés, mais au bout d'un moment, si tu retrouves pas ça, cette agressivité défensive déjà dans un premier temps, on leur demande de bien défendre, d'être agressif,
mais l'agressivité partout, hein, pas qu'en défense. Toi, bon, là, je comprends que tu parles de ce secteur-là.
Non, mais
en Ligue des Champions, si tu n'as pas ce niveau d'agressivité, de détermination, de caractère, tu ne vas nulle part. Hein.
On est d'accord.
Aucune équipe te fait un cadeau, même si tu tombes sur un Shakhtar sans caractère, sans envie, tu te fais défoncer.
Non, mais ce que je trouve pas normal, 16 buts encaissés, c'est quand même synonyme. Alors encore une fois, et là, je te rejoins Daniel, il n'y a pas que Jemerson et Glick. C'est une question d'envie collective de bien défendre ensemble, des joueurs de côté, les joueurs offensifs dans le repli défensif, chose qu'on a très peu mis en avant hier du côté du Paris Saint-Germain, mais qu'on peut mettre aussi en avant.
Tu veux dire qu'on Neymar marchait,
Mbappé aussi dans son repli défensif par moment, mais voilà, mais c'est pareil pour les joueurs de côté, c'est pareil pour Fabinho au milieu de terrain, c'est pareil pour les latéraux. Il y a beaucoup trop de problèmes aujourd'hui à l'AS Monaco pour même redevenir une équipe compétitive pour la Ligue 1. Parce que Alexandre, il est encore là, Alexandre.
Oui,
mais Alexandre, quand tu dis que elle va commencer la saison, mais comment les joueurs d'un seul coup, ils sont éliminés de la Ligue des Champions, ils ont pris des claques et ils vont se dire on va partir en vacances et au mois de janvier on va retrouver envie de
la deuxième partie de saison. Ça peut on a vu des équipes qui inversaient sur des saisons, hein, qui inversaient des tendances. Quand t'as plus que la Ligue 1, tu te concentres là-dessus.
Non,
je peux le croire, hein, ça moi j'ai même envie de croire que la deuxième partie de Monaco sera plus intéressante.
Daniel, on peut le croire et je leur souhaite à
je
Monaco
pense pas qu'ils vont laisser filer, déraper, glisser.
Mais on peut être sceptique quand même. On peut être sceptique par rapport à bon, le PSG, j'en parle même pas, mais par rapport à ce que montre Lyon, par rapport à ce que montre Marseille au niveau de cette grinta, par rapport à ce que montre Nantes aussi. Moi, je te dis qu'il va falloir qu'ils montent vraiment d'un cran de ce côté-là. Et s'ils le font pas, il va y avoir pas mal de désillusions.
Alexandre, un truc à rajouter ?
Ouais, bah écoutez, enfin moi, Jérôme, quand tu t'inquiètes un peu pour la deuxième partie de saison, bah je te trouve un peu pessimiste.
Non, attention, inquiété, tu te dis pas de finir dixième.
Hein. Ouais, non, mais je sais bien, tu dis ne pas être finir dans le top 3.
Ouais.
Bon, je pense qu'on est quand même supérieur à Marseille.
Mais non.
Je pense quand même que ça le fera et je pense que voilà, la trêve hivernale va faire du bien. Je pense que Jardim va remettre les choses à l'endroit. Peut-être qu'on va se renforcer aussi. Il y a eu quelques rumeurs là comme quoi Jardim voulait des renforts. Moi, je suis persuadé que voilà, Jovetic, il va revenir. J'espère qu'il va commencer sa saison. Baldé, je pense que la trêve hivernale, ça va faire du bien. Voilà, je pense qu'il a manqué, c'est du temps. Et moi, je suis persuadé que ça va le faire. Alors, j'ai un petit doute pour la deuxième place. Je t'avoue que Lyon, bah, il m'impressionne. Lyon, je suis assez étonné. Mais non, je pense que pour le podium, ça va le faire. Moi, je m'inquiète pas du tout. Et voilà, faux départ cette année. Mais encore une fois, c'est pas dramatique. Et souvenez-vous, le projet monégasque, c'est ça. C'est une année sur deux, quand on fait une très bonne saison, et bah l'année d'après, on vend.
Non, on
et
d'accord.
L'année d'après, c'est plus compliqué. Donc, faut pas.
Non, mais Alexandre, on est d'accord. On connaît le système monégasque. Souvent, ça se passe comme ça. En effet, il y a une bonne année et l'année d'après, elle est un petit peu moins bonne. Mais c'est pas parce que ça se passe souvent comme ça qu'on est obligé de dire, ah bah oui, mais c'est la deuxième année de Monaco. Donc cette année, c'est normal qu'en Ligue des Champions, ils aient fini dernier d'un groupe qui était largement jouable et qu'ils aient pris 16 buts. Et qu'aujourd'hui, en championnat, les résultats sont quand même un petit peu en dents de scie depuis quelques temps, même si au niveau comptable, c'est encore bon. Donc il y a de quoi quand même s'inquiéter. Et pour finir là-dessus, Alexandre, je m'inquiète sur le... Sur ce caractère, cette envie d'être fort collectivement, encore plus dans le contexte monégasque, parce qu'il y a des matchs à domicile. Quand tu vas jouer des équipes qui luttent pour le maintien au mois de mars, au mois d'avril là, ou au mois de mai, des équipes qui vont t'emmerder, et si toi collectivement t'as pas plus envie que ça de bien défendre ensemble, il va y avoir pas mal de petits accros, et ces petits accros, bah ça va permettre à Lyon, voire à Marseille, voire à Nantes, parce que Nantes on n'en parle pas, mais Nantes est quand même sur une bonne lancée.
Cinquième.
Moi je te dis juste qu'il faut vraiment qu'ils prennent conscience de toutes ces faiblesses aujourd'hui.
Philippe, comment tu vois ça, toi, de ton œil anglais, ce qui se passe à Monaco ?
Moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que je n'ai pas vu énormément de Monaco. Je compare le Monaco que j'ai vu ce soir à celui que je connaissais de l'année dernière, et c'est un gouffre qui s'est ouvert sous leurs pieds. Alors, je veux bien que il y ait énormément de changements de joueurs, changements de personnel, mais c'est dans l'envie, c'est des choses de base. Quand on voit les buts concédés contre Porto ce soir. Mais bon, ça fait mal. Et encore une fois, moi, quand j'avais vu le tirage au sort, je me suis dit, mais Monaco a un coup à jouer. Ils ont un coup à jouer. Et quand on parle de l'année sur deux, je veux bien, mais ils ont des moyens malgré tout, Monaco.
Non, mais c'est pour ça.
On peut être quand même plus ambitieux que cela, et que se prendre 5-2.
Oui, 5-2, 3-0 à domicile, 3 défaites à domicile. Hein,
et à chaque fois, exactement, et à chaque fois des désillusions, des déceptions, dans le résultat comme dans le jeu, mis à part un match en Turquie. Et c'est ça. Donc, par rapport à l'an dernier, non, c'est catastrophique.
J'aimerais qu'on fasse une petite évaluation quand même, parce que bon, on a vu des joueurs qu'on voit moins ce soir. Je pense à Ndoram par exemple. Guézal, le pauvre Guézal, là, il a l'occasion de se montrer. Bon, bah, il arrive à prendre un rouge.
Il n'y a pas que lui, hein. Diakabi aussi, qui doit se montrer.
Almami Touré.
En août, on avait tout de suite compris que les pieds n'étaient pas à l'endroit. Bon.
Almami Touré. Confirme que c'est compliqué à chaque fois qu'on le voit. Par ailleurs, c'est-à-dire, en fait, souvent on parle de joueurs en devenir à Monaco. Il y en a, on peut quand même se demander ce qu'ils vont devenir.
Ouais, mais moi je suis d'accord avec toi. Alors après, Guézal, moi je serais voilà. On en a parlé. Diakabi. Aujourd'hui, c'est quoi vraiment sa position? C'est pas excentré côté gauche, ça c'est sûr, comme il a joué aujourd'hui. Ça c'est une certitude. Le devant, il a montré des limites aussi. Quand il joue côté droit, c'est la même chose. Donc, il faut lui laisser le temps. Est-ce que ça deviendra un top joueur? J'en suis pas certain. Maintenant, après, ils ont quand même des jeunes à côté qui sont capables de vraiment de se hisser à un bon niveau. Mais après, tu parles de Touré. Touré, c'est pas la même expérience qu'un Glick et Jemerson, parce que l'année dernière, c'était pas un titulaire indiscutable, mais il a joué pas mal de matchs. Aujourd'hui, le Touré qu'on voit, c'est pas le joueur qui est important pour l'AS Monaco et qui va permettre de retrouver une solidité. Non, là, Touré, il a un niveau d'un club moyen de Ligue 1 actuellement et pas le niveau d'un joueur de l'AS Monaco qui joue le haut du tableau. Sur et Moutinho aussi, hein, on peut en parler, hein, on peut y aller, hein, si tu veux.
Il y a certains supporters.
Pas trop lancer sur Moutinho.
Il y a certains supporters de l'OL un peu parano, ils le sont souvent, qui disent vous trouvez toujours des choses qui ressemblent à des excuses pour les Monégasques, vous trouvez des explications, alors que quand Lyon sort pas d'une phase de poule, vous êtes bien plus sévère. Mais je comprends pas comment ils font pour ne pas comprendre que justement on est vachement plus exigeant avec Lyon, parce que c'est pas du tout le même genre de club, parce que c'est pas le même genre de projet, parce que de Lyon on attend quelque chose, de Monaco c'est toujours une surprise. Monaco c'est une surprise l'année dernière, comme c'était une surprise l'année de Jérôme, parce que c'est quelque chose, on sait qu'il y a, Monaco est toujours un épiphénomène, et puis parce qu'on sait aussi que le modèle économique de ce club fait que une année en fonction du bon recrutement, du temps qu'on a laissé un peu à l'entraîneur pour travailler, ça peut marcher, et puis qu'après on sait très bien qu'ils vont vendre, ils sont capables de vendre la moitié de l'équipe. C'est pas du tout ça. Enfin, évidemment qu'il y a deux poids deux mesures, évidemment qu'il y a toujours différentes façons d'analyser les choses et que les exigences ne sont pas les mêmes en fonction des clubs, et c'est pour ça que un PSG qui ne serait pas sorti des poules, mais c'est pas sévère qu'on aurait été. C'était mitraillette, c'était tout ce que tu veux. Enfin, on parle de foot, hein, mais dans le nombre de critiques qui, d'ailleurs, il suffit de voir ce que ça a donné juste pour une défaite au Bayern. Ce qui, si tu le prends dans l'absolu, perdre au Bayern, c'est pas grave de perdre au Bayern. Mais perdre au Bayern, dans ces conditions-là, après avoir livré une telle prestation, et avoir cartonné tous les petits et t'écrouler au moindre gros qui se présente face à toi, oui, évidemment qu'on est extrêmement exigeant avec le PSG. C'est toujours pareil. Je comprends pas cette volonté de traitement, mais c'est la maladie de ce pays, c'est l'égalitarisme. Daniel, de vouloir qu'on traite tout de la même façon, alors que ça n'est pas le cas. Ça ne peut pas être le cas.
Moi, j'ai pas eu l'impression d'être Lyon, l'anomalie. Avec Monaco ce soir.
Non, mais Lyon, l'anomalie, c'est qu'il n'y soit pas en Ligue des Champions.
Mais en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de Lyon, là?
Mais parce qu'il
a pris des réflexions.
Sur les commentaires, sur Lyon, vous êtes trop dur et tout. Mais non, mais Lyon, c'est normal qu'on soit exigeant avec
sur les réseaux et ça l'a
Lyon,
je me disais qu'il n'écoutait pas ce qu'on disait, tu vois.
Lyon, ce qu'on veut.
Il était concentré sur autre chose.
Lyon, ce qu'on veut.
Ce que t'as dit, c'est ce qu'on vient de dire, Daniel.
Pas du tout. Lyon, ce qu'on veut, c'est qu'il soit deuxième, qu'il soit en Ligue des Champions. Mais non, mais parce que quand je vois Monaco ce soir, moi je veux bien, l'année dernière, c'était formidable. Mais, ok, cette année, ils se ramassent. Est-ce qu'ils vont revenir en Ligue des Champions?
C'est pas normal qu'ils se ramassent comme ça.
Voilà.
Nous, on peut pas leur trouver des excuses.
Nous, ce qu'on veut, c'est que tous les ans, t'aies des équipes récurrentes, qu'elles sortent des poules.
Eh oui.
Et qu'on avance, parce que sinon notre football n'avancera jamais. Ça n'avancera jamais. Si on est sans arrêt dans des perpétuelles reconstructions, alors de Monaco, on peut l'accepter parce que c'est un modèle économique différent, puis c'est un club où il n'y a pas de bassin de population, t'as pas un public, des gens qui viennent régulièrement et tout. Mais de Lyon, qui a un stade de 60 000, tu vois, ben là, on attend le réveil maintenant. On attend qu'ils reviennent en Ligue des Champions et qu'ils se fassent pas taper comme ils se sont fait taper les deux dernières fois qu'on les a vus là-dedans. C'est tout. D'où la sévérité différente.
Sur Monaco, voilà.
Avançons, les gars.
En fait, c'est un point positif. Ce qu'il y a, c'est certains ne comprennent pas que ces critiques sont en fait, au fond, la volonté de voir la chose positivement.
Ouais, David Lorto nous attend. D'abord, Jérôme, vas-y.
Non, mais moi, pour finir, où là, je suis pas d'accord avec Daniel, c'est sur Monaco. Toi, tu dis, c'est pas. Il n'y a pas énormément de supporters, c'est pas une grande ville.
Oui, mais
c'est une place forte dans le championnat de France. Oui, et Monaco, on attend.
Je pense qu'ils n'ont pas vocation à l'être du fait d'une structure économique particulière. Voilà, c'est tout. Alors que de Lyon et de Marseille, franchement, je n'attends qu'une chose, c'est qu'ils soient podium tous les ans et Ligue des Champions.
Alors, ils ont beaucoup vendu Monaco, mais quand tu vois l'investissement aussi aujourd'hui de racheter des jeunes joueurs et des joueurs de talent pour exister, c'est un échec cette année.
Bien sûr, qui va te dire le
donc, oui. Mais
je
parce que toi, en fait, tu vois pas Monaco sur la même lignée que
je
Marseille.
Je serais toujours beaucoup plus exigeant avec Lyon et Marseille qu'avec Monaco. Pour moi, Monaco, quand ça tourne bien, c'est une sympathique surprise. C'est bien, c'est chouette,
Monaco se doit tourner parce que c'est une place importante dans le championnat de France.
Mais ils sont pas là pour ça.
Bah si, Daniel.
Pas en premier.
Attends tout.
Allez les gars, s'il vous plaît.
Pas en premier maintenant.
David Lorto est là. David, bonsoir.
Allô, Freunde. Salut, messieurs.
Alors, on voulait t'avoir
pour... Les Allemands, bravo.
Les Allemands, bravo. Leipzig, bon, Leipzig,
c'est un beau championnat, toi.
Mais ils l'ont pas prise. Dortmund non plus. Parlons de Leipzig d'abord. Qu'est-ce qu'on dit en Allemagne sur la sur l'Europa League pour Leipzig?
Alors c'est la continuité de ce qu'on a vécu depuis le début de cette campagne de Ligue des Champions, c'est-à-dire que on est simplement, et ça n'est pas qu'un discours de façade, on est content d'apprendre à Leipzig, parce que le public est déjà aux anges de participer à la Bundesliga pour la première fois depuis la saison dernière. Alors rendez-vous compte, quand on fait une campagne de Champions League et qu'on arrive à passer l'hiver pour se qualifier pour la Ligue Europa, on est très heureux. Ça c'est le discours de façade officiel qui à mon sens est valable. Maintenant on est quand même peut-être un peu déçu à l'intérieur, parce que à l'image du match de ce soir, le RB Leipzig a quand même beaucoup vendangé dans cette Ligue des Champions, a été parfois frustrant, a été parfois très maladroit comme ce soir, où en face il y a une équipe froidement réaliste, et même au moment où Leipzig égalise, il y a le but derrière qui donne la victoire finalement aux Turcs. Donc il y a ce double sentiment sans doute à l'intérieur de chacun, à l'intérieur des dirigeants, à l'intérieur de l'esprit des joueurs, c'est OK, on a montré de belles choses, mais on aurait peut-être pu espérer un peu mieux, parce que finalement à l'arrivée, on a 7 points, c'est pas si mal. Porto n'a que 3 points de plus et on était à portée de fusil entre guillemets d'une qualification qui aurait été évidemment fabuleuse.
Moi je ils profitent un peu des circonstances, que Monaco s'est écroulé, on se demande pourquoi, mais on en a parlé juste avant, que Beşiktaş est une bonne équipe, ils méritent leur première place, mais c'est pas non plus un grand, et puis Porto est en progression, mais bon, franchement, j'ai l'impression que cette équipe, même si tu dis elle a beaucoup vendangé, elle a appris avec cette Ligue des Champions, mais malheureusement ils sont au taquet, quoi. Ils sont au taquet. Il y a très peu de joueurs que tu peux imaginer dans un futur proche dans des très grands clubs européens.
Il y en a peu, effectivement. Ouais. Il y en a peut-être quelques-uns. Naby Keïta a été encore délicieux ce soir. Oui. Et puis Werner, évidemment, que l'on
Werner
a
devant,
identifié
ouais.
depuis longtemps ouais. en attaque. Voilà. Oui, c'est bien sûr. Les autres sont de j'allais dire de bons joueurs de club. Ce serait affreux, parce que là, ils étaient quand même dans une compétition dans laquelle ils n'ont absolument pas démérité. Mais je suis d'accord, Jérôme. Au niveau des joueurs un peu qui sortent du lot et qu'on peut repérer en Europe, voire peut-être à la Coupe du Monde. Vous suivez mon regard pour Werner en fin de saison. Ils sont pas extrêmement nombreux dans cette équipe, on est bien d'accord.
Tu veux nous dire un mot sur le Borussia?
Bah oui, parce que oui, un petit mot quand même,
parce que c'est super décevant quand même ce qu'ils font. On s'attendait à un groupe de la mort et finalement il a pas eu lieu. Non, on l'a pas vu.
Il n'a pas existé.
Je crois que c'est un record, messieurs, se qualifier en Ligue Europa. Alors c'est une déception évidemment pour Dortmund, mais se qualifier en Ligue Europa avec 2 points en 6 matchs. Je crois que c'est inédit, ça n'est jamais arrivé dans la compétition.
Ah ouais, non, c'est sûr.
Après, la différence de but, elle n'est pas catastrophique. Je crois que c'est 7 buts marqués, 13 buts encaissés, donc ça n'est pas non plus une catastrophe. Mais c'est évidemment une grosse déception pour Dortmund. Et encore, quand on voit le 11 de départ ce soir, qui est quand même très très alléchant au départ. Et puis finalement, on a un Dortmund qui fait de belles choses, mais qui s'écroule en défense rapidement. On l'a vu sur le premier but. Après, vous avez Ronaldo en face. Et j'écoutais pas le début de l'émission, mais vous en avez peut-être déjà parlé. Et puis Fred Hermel était au stade, donc il témoignera mieux que moi de cela. Mais évidemment, c'est un gâchis. On n'arrête pas de dire, et ça c'est à mettre au crédit quand même des dirigeants de Dortmund, on n'arrête pas de dire que Peter Bosch est sur le départ, l'entraîneur. L'ultimatum est sans cesse repoussé. Le prochain, c'est le match contre le Werder Bremen ce week-end, qui pourrait être son dernier match à l'entraîneur, mais on peut au moins accorder aux dirigeants de Dortmund le crédit d'avoir essayer au maximum avec cet entraîneur. Ça marchait bien en début de saison. Ils avaient une série de victoires en autant de matchs en Bundesliga et puis ça s'est écroulé. Et maintenant, il faudrait un miracle pour que Dortmund sauve réellement sa saison sur la scène nationale. Il y a quand même une petite éclaircie, c'est cette campagne d'Europa League qui se présente avec quelques clubs sympathiques et notamment l'Atlético Madrid. Ça n'a pas manqué d'être mentionné sur les plateaux de télé allemands. Voilà, on se contente de peu. Cette saison est décevante déjà.
Je vois pas un Allemand gagner l'Europa League cette année quand même.
Cette saison européenne, je termine là-dessus Gilbert, cette saison européenne est décevante d'ores et déjà pour les clubs allemands, parce qu'en Europa League aussi, il y a eu des déceptions et notamment Hoffenheim. On espère en tout cas en Allemagne que ce soit pas
une... Je crois, hein, qui est...
Oui.
qui est éliminé.
Exactement. On espère simplement en Allemagne que ça soit pas une tendance qui s'installe et que ça ne soit que le reflet d'une saison.
Et c'est un peu le reflet. Philippe, ouais, oui, David, Philippe, là, je suis dans l'antre du démon ce soir. Je suis dans le studio. La question que je me pose, est-ce qu'on assiste en Allemagne au même débat ou pseudo-débat qui a eu lieu en Angleterre il y a de ça 3-4 ans, quand les gens se sont rendus compte que voilà, on était super contents, comme la Bundesliga est super contente par exemple de ce qu'elle fait économiquement, c'est absolument extraordinaire, et que les résultats par contre en Europe sont un petit peu décevants. Et est-ce que ce débat a lieu d'être en Allemagne? Est-ce que tu entends, est-ce qu'on en parle?
Est-ce qu'on flippe en gros, est-ce qu'on s'inquiète?
Ben oui, est-ce qu'on s'inquiète? Est-ce que si tu veux pas voir les wagons s'accrocher à la locomotive du Bayern, c'est un peu gênant quoi.
À mon avis, ils s'inquiètent.
Alors oui. Oui, on sent qu'il y a eu un petit coup quand même au moral, notamment dans les éditeurs, des éditos qui paraissent régulièrement, dans semaine après semaine, dans la presse écrite. La réflexion qui est faite, elle est quand même de dire, bon, il faut faire un constat, il faut voir s'il y a des réactions, s'il y a des enseignements à tirer, il faut voir si nos clubs derrière le Bayern ne sont pas devenus et ne devraient pas devenir peut-être contraints et forcés des clubs formateurs, des clubs qui font émerger de bons joueurs pour ensuite en profiter économiquement. Oui, évidemment, le débat a lieu toutes les semaines et la réponse n'a pas encore été apportée, évidemment, parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Mais bien sûr, tous ces clubs dont on a parlé ce soir, Dortmund, Hoffenheim, le Hertha Berlin qui a quand même un énorme bassin de population derrière lui et d'autres comme Leverkusen qui s'est écroulé ces dernières saisons aussi, par exemple. Oui, le débat est lancé et pour l'instant on n'a pas de recul suffisamment pour faire une vraie analyse en profondeur en tout cas.
Merci David.
Merci messieurs, bonne fin d'émission.
Dans quelques instants on va parler des clubs anglais. Oui Daniel, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, je voulais dire salut David, c'est tout, c'est fait.
Très bien, cette marque de politesse t'honore.
Exactement.
Jérôme, par exemple, t'as pas dit salut David, on peut le condamner.
Je l'ai écouté.
Moi je ne le jugerai pas pour ça.
Très bien, t'as bien raison. 5-2 pour Porto face à Monaco. Monaco dernier de sa poule, bien sûr. Porto qualifié, tout comme Besiktas dans cette poule qui gagne à Leipzig 2-1. Je vous donne les autres scores rapidement si vous ne les avez pas, si vous nous rejoignez à 23h23 dans l'after. Liverpool bat Spartak 7-0. Maribor Séville 1 partout. Feyenoord bat Naples 2-1. Le Shakhtar bat City 2-1. Le Real bat le Borussia 3-2. Tottenham bat la Poel 3-0. On se retrouve dans quelques instants dans l'after. Tiens, ça me permet de vous signaler qu'à partir de demain, RMC est au RMC Sport Games à partir de 16h, mais oui, Tim Dugas, Vincent Moscato, le Super Football Show à Val d'Isère à partir de demain soir. Donc voilà, mais l'after demain reste encore ici pour l'Europa League et après l'after sera aussi à la montagne. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Gilbert Brébois.
Quoi, Maïga? Qu'est-ce qu'il a, Maïga?
Maïga?
Ça lui plaît pas. Moins 15, c'est pas si froid. Peugeot, c'est le Disneyland d'ici. Il fait noir de jour comme de nuit. Mais des fois, sur un coup de folie, on arrive à trouver du gris. Quoi, my gars? Qu'est-ce qu'il a, my gars? On dirait Manchester. C'est un peu le Freddy Canouté de Sochaux. La juge entend moins. C'est vrai, quand on l'entend parler, il a pas vraiment l'air malien. Quoi, my gars? Qu'est-ce qu'il a, my gars?
Voilà, hommage à Johnny. L'hommage à Johnny de l'After, Maïga, vous l'avez compris, qui jouait à l'époque à Sochaux et qui
maintenant José Lira. On les a oubliés, Longil, on l'a oublié.
Maïga, là on parlait de température, il est maintenant aux Émirats Arabes Unis.
Donc
il y en a marre du doux.
Il y avait
sans doute un beau projet sportif.
Ouais, voilà, bon,
t'as raison. avant de parler des clubs anglais, on a Ralil qui lui est supporter de Paris et qui veut revenir sur le tirage. Salut Ralil.
Bonsoir à tous.
Alors, avant que tu prennes la parole, j'ai retweeté, tu sais, le fameux tableau des pourcentages. Tu connais ça?
On me l'a envoyé mille fois sur Twitter. Je vous remercie tous pour cet envoi.
Daniel n'y comprend rien.
Mais je n'y comprends rien.
Mais c'est, en fait, c'est une addition de probabilité, hein. Donc, c'est pour ça que Daniel n'y comprend rien.
Exactement.
Alors, juste, je détaille.
Je l'ai pas vu, moi, ce mec.
Le PSG a 28% de chances de tomber sur Chelsea.
OK.
OK, c'est la probabilité la plus forte.
Ouais, c'est là.
Ensuite, il y a 12,8% de chances de tomber sur Real, Juve ou Séville.
Ah bah ça, c'est plutôt bien que t'aies 12% seulement de tomber sur
Ensuite,
Real.
Ensuite, il y a 11,3% de chances de tomber sur...
Non, plus élevé.
Si, non. Après Chelsea.
Après Chelsea. Après, il y a 11,3% de chances de prendre Shakhtar et Bâle.
Ouais.
Et après, il y a 10,8% de chances de prendre Porto.
OK.
En fait, c'est les probabilités croisées entre les deux côtés, quoi.
Ah ouais, donc en gros, là, on va se retaper un PSG de Chelsea.
Bah, c'est la probabilité la plus forte.
28%, oui.
Ah, 28%, c'est
beaucoup quand même.
1 sur 3.
Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, à Lille, de
moi, moi, ça me dit bien, un petit road trip à Londres, ça me dérange pas du tout, c'est pas loin, l'Eurostar est là. De toute façon, si on veut prétendre gagner une Coupe d'Europe, faut passer par ça, hein, jouer les grandes équipes. C'est pas en jouant balle qu'on va se rassurer après la dernière défaite d'hier, qui était, comment dire, bon, je vais commencer par le tirage, parce que le match d'hier, il est encore en travers de ma gorge. Mais le tirage, non, Chelsea, ça me dérange pas. Après, le top, ça serait tombé face à Bâle ou même Porto. Porto m'effraie pas. Après, franchement, Séville, ça peut être un traquenard de jouer contre Séville. Aller jouer en Espagne.
Bah, Séville, c'est exactement le même traquenard que Porto, hein, si tu vas parler.
Ouais, mais Porto, je sais pas, moi, bizarrement, aller jouer à Séville, ces derniers temps, c'est plus difficile que jouer à Porto. Moi,
j'ai franchement, je suis pas sûr du tout. Alors, vraiment pas.
Ouais, mais je sais pas. Après, peut-être qu'offensivement,
il menait 3-0 et en fait, c'est complètement suicidé.
Séville, ils ont une attaque qui est assez performante. Moi, je trouve que aller chez eux avec le mental des défenseurs parisiens qu'on montrait hier, franchement, moi, je vous le dis, Séville, c'est pas un bon plan. Après, le tout, c'est de tomber sur une grosse équipe. Pour moi, ça serait le top. Parce que bah, les mecs, ils seront obligés d'être à 300. Parce que hier, quand je vois le mental des joueurs brésiliens qui me rappellent le fameux match contre l'Allemagne où ils ont perdu tous leurs moyens, ils ont pris 7 buts. Le fameux FC Chicha avec le capitaine Kurzawa qui devrait plus se mettre à jouer au ballon que faire de la mode et de la télé et des snaps et Instagram qui va avec. Et franchement, moi, jouer une grosse équipe, montrer qu'ils en ont. S'ils sortent dès les huitièmes, bah, ça leur apprendra à arrêter de se gonfler comme pas possible. Parce que moi, je fais pas de critique leur parcours chapeau. Mais quand il faut montrer que c'est une grosse équipe, et ben bizarrement, c'est là où ils se font dessus.
Et, bah, c'est le mental, ça. Ça, c'est le mental.
Ouais, bah, c'est le mental. Ah, ouais. Le mental, bah,
c'est Gasquet par rapport à Nadal, c'est pareil. Hein.
C'est ça.
Gasquet joue pas moins bien au tennis, mais dès qu'il y a un grand moment, il se fait caca dessus.
Voilà, exactement, les grandes équipes. Il l'a dit, Müller, hier, en nous narguant. Parce qu'il faut pas oublier, malgré tout, qu'ils ont pris
Müller, il a raison de dire ce qu'il a dit. Si ça fouette pas l'orgueil des Parisiens, tant pis pour eux.
Ah oui, ça c'est clair. C'est très bien qu'il ait fait ça. Moi, ça, carrément, je suis content. Mais tant que le capitana restera dans les mains des mecs qui prennent 7-1, qui se mettent à pleurer à la moindre critique, quand je vois Neymar qui vient au Parc des Princes, il a même pas 6 mois chez nous, il se met à pleurer au pied de son sélectionneur, il est triste parce qu'on l'a critiqué. Non mais attends, t'es sérieux toi? Mais il y a des mecs, ils ont fait des carrières, ils s'en ont pris plein la gueule toute leur vie, et t'as même pas le 10e de leur palmarès, et t'oses venir pleurer.
Ah, le Brésilien chiale un peu, hein.
Ouais, ben, à un moment donné, faut taper du poing. Emery, qui te fait un changement à la 90e. Il attend une blessure, il te fait un changement à la 90e. Faut pas déconner. Tu veux montrer que t'es un coach. Je veux bien que tu t'en fous. Tu veux faire comprendre à Di Maria qu'il doit se barrer. Mais il y a des mecs qui veulent jouer. Alors, respecte les grands plateaux. Fais jouer des mecs. Je sais pas, je change de schéma tactique. T'es en train de te faire bouffer au milieu de terrain. Le Tolisso, là, qui sort de Lyon, il a oublié qu'il s'en prenait je sais pas combien contre le PSG. Ça y est, il joue au Bayern Munich, il vient et te fait des L, des W, je sais pas quoi. Encore un mec qu'on va mettre dans les
En même temps, il a raison, il est dans un bon collectif, il fait un super match, qu'est-ce que tu veux.
Mais qui reste humble. En fait, les joueurs français, là, bah, c'est ce qu'on remarque, les petits jeunes, là,
les petits jeunes qui se prennent pour des caras, ouais, je le dis, ils se prennent pour des caras, des mecs qui ont jamais vécu dans des quartiers difficiles, qui ont tout ce qu'il faut pour vivre paisiblement, se prennent pour des mecs qui traînent dans
Sarah Lille, je ne peux que te suivre, mais je veux pas le répéter parce que j'ai assez d'emmerdes en ce moment, donc.
Ouais, non, mais moi, je le dis, moi, je suis d'origine maghrébine, j'en ai rien à secouer.
Toi, tu peux, moi, j'ai plus le droit maintenant.
Non, mais Daniel, nous, ce qu'on aime, c'est le franc-parler. Faut être franc. Les Français, il y a un problème, faut dire la vérité. Des mecs,
ça va. Attends, excuse-moi, faut-il établir forcément un lien entre comportement hors terrain et comportement terrain, background,
bien sûr. Ce que t'es rejaillit toujours sur ta façon d'être.
Tu peux passer ta vie sur Snapchat et Instagram et être un bon footballeur malgré tout. Il n'y a pas de règle absolue.
Allez demander à Maldini ou à
Des Pierrot,
on va prendre plus simple, des mecs plus modernes, on va dire Gérard, Lampard, ils ont terminé il y a pas si longtemps, pourtant Internet existait à leur période, je les ai jamais vus faire des trucs, même Beckham qui était médiatisé, malgré lui, je l'ai jamais vu faire autant de cinéma que ces mecs-là.
Non mais on est d'accord, c'est vrai.
Kurzawa, hier, il savait pas jouer au foot.
Non mais ça c'est
il pas... a même pas été capable de déborder une fois.
T'as pas attendu le match de Kurzawa hier.
Mais à l'inverse, si ça se trouve, si Kurzawa avait un comportement hors terrain exemplaire,
Mais exactement, le problème c'est que tu peux pas te la raconter. À un moment, tu peux pas être à ce point en décalage entre ce que tu penses être, ce que tu affiches, en gros, la façon dont tu te la racontes et tu te mets en avant. Et après, si sur le terrain t'es bidon, évidemment que ça passe pas, Gilbert. ça s'appelle l'humilité. Et d'ailleurs, je ne comprends
pas
pourquoi tu ne te mets jamais dans le camp de ceux qui défendent l'humilité et le travail, Gilbert. Daniel. Tu vas tout le temps chercher des excuses à ces mecs-là. Je n'arrive pas à comprendre ça.
Alors que logiquement,
dans la vie, tu n'es pas comme ça.
Je
comprends pas ce manque de naturel.
C'est un peu facile à chaque fois de dire.
Mais le problème, c'est que c'est pas un exemple. C'est répété sans arrêt.
Il fume la chicha, donc il est nul.
Daniel.
Un lien objectif entre le fait de fumer la chicha et rater un contrôle.
Tu veux que je te le dise?
Il y a un lien objectif entre fumer la chicha et rater un contrôle.
Est-ce que tu veux que je te l'explique?
Ah oui.
Est-ce que tu veux que je te l'explique? Alors, tu vas voir les gens qui s'occupent des tests médicaux au Paris Saint-Germain, sauf que ça, personne n'a envie de le dire. Mais bientôt, ce sera révélé par certaines personnes. Je dis rien, je vous donne juste 4 mois. Tu prends les tests physiques des mecs comme Rabiot et Verratti d'il y a un an et ceux de maintenant, après consommation de chicha, et tu vas voir quels sont leurs résultats.
La chicha est très nocive et je sais que certains clubs font des démarches dans les centres de formation.
C'est pas que c'est nocif, c'est qu'aujourd'hui dans le football français, on est à l'état de catastrophe. Sauf que personne n'ose le dire.
Lié à la consommation de chicha.
Exactement. Sauf qu'on n'ose pas le dire.
J'ai pris ces exemples.
Aujourd'hui, dans les clubs, on est en un état de catastrophe, sauf que personne n'ose le dire.
Non mais
personne n'ose le dire. Moi, quand je le dis, j'ai que des emmerdes. C'est pour ça que les dirigeants, les médecins dans les clubs ne veulent pas le dire, parce qu'ils ont peur des emmerdes. Voilà. C'est de la faute de Rally, ils me lancent là-dessus.
Moi, je voulais parler, c'était un exemple sur terrain.
Va prendre les tests physiques des mecs au PSG. Tu vas voir les inquiétudes qu'il y a sur certains cas.
On a connu aussi plein de joueurs de foot qui fumaient.
Non, ça c'est faux. Ça c'est faux.
Zidane fumait.
Dis pas c'est faux, Daniel. J'ai vu des mecs en équipe de France même fumer à la mi-temps des matchs.
Oui.
Des grands joueurs et des mecs qui ont fait des carrières exceptionnelles, qui ont été champions du monde, champions d'Europe, qui ont tout gagné en club. Ces mecs-là, et ça arrivait. Comme tu dis, la consommation de chicha, ça dépend. C'est sûr que si le mec il se met tous les jours une race à la chicha, c'est différent.
Je suis en train de te parler de ça.
On est d'accord.
Maintenant, je suis en train de te parler de ça.
Tu sais exactement le degré de consommation. C'est pas bientôt. Je m'en fous. Je parle des performances.
Mais tu veux les preuves, tu les auras.
À un moment, les gens vont parler.
Déjà, ça commence à sortir. Bien sûr que si. Ils ont fait une enquête récemment, là, même là-haut, à la rédaction. C'est un fléau dans les clubs.
Non, mais quand ça soit un fléau, on est d'accord, Daniel.
Mais en fait, c'est moi qui ai mis ça sur la table. J'aurais pas dû prendre
ce que je veux dire, c'est que tu joues au Paris Saint-Germain aujourd'hui, tu peux pas tout remettre d'un seul coup parce que le PSG a été dépassé contre le Bayern de Munich et qu'il y a une défaite en Champions League. Tout sur le coup en disant ben ouais mais les mecs ils font n'importe quoi, les mecs ils sont arrogants, les mecs ils manquent d'humilité, les mecs ceci cela, mais on s'en fout, tout ça c'est les performances sur le terrain. Le mec ça me fait rire, l'humilité. Ouais, t'as une image médiatique. Les gens te collent des fois une image médiatique, et là je te parle en connaissance de cause parce que moi des fois on m'a collé une image médiatique sur la gueule. et ben moi j'avais pas l'impression de me foutre de la gueule des mecs. Et ben comme les jeunes joueurs aujourd'hui qui par moment vont vont dire des choses, vont faire des choses et on va dire ouais le mec il manque d'humilité, il prend les gens pour des cons. Jérôme, moi je pense qu'aujourd'hui au Paris Saint-Germain, il y a une très belle équipe. Le tout c'est qu'il faut qu'il fasse encore plus bloc ensemble pour gagner des grandes compétitions.
Réponse de Daniel et après on passe au club anglais. Il faut bien qu'on y arrive à un moment.
Je vais te répondre puisque ton très grand argument c'est toujours de me dire que moi je n'ai pas connu le terrain. Je vais te dire je vais te répondre un truc. Ouais. C'est que sauf ton respect, tu n'as fait qu'une saison au haut niveau. Ok. Respect. Alors laisse-moi finir.
Ça n'a rien à voir. Laisse-moi finir.
La Ligue des Champions, tu ne l'as vu qu'une fois. Donc déjà,
je l'ai pas vu qu'une fois.
Donc déjà, je ne pense pas.
La finale, oui. La coupe, oui.
Je ne pense pas qu'aujourd'hui. Je ne pense pas que dans le football d'aujourd'hui, par rapport à celui, pas le tien. Je parle même d'avant, quand on ressort les vieilles anecdotes sur Romario et ce genre de trucs. Quand la Ligue des Champions, t'avais deux fois moins de matchs dans toutes les compétitions.
Rien à voir.
Voilà, ça n'a rien à voir.
Ouais,
le PSG, avec l'exigence qu'il y a maintenant, ce niveau-là, avec ses renforts, ce niveau, tu ne l'as jamais connu. Donc tu ne peux pas venir me dire un PSG avec autant d'exigences, autant de moyens, autant de choses. Tu ne l'as pas connu.
Mais des groupes formés pour gagner.
Non,
j'en ai connu. Mais si, des groupes formés pour gagner. Je suis désolé.
2004, c'était pas fait exprès. Donc c'était pas programmé. On peut pas me dire. Mais je connais pas.
Tu connais pas le terrain.
Il a été les meilleurs joueurs de la championnat. Il est 23h41, le temps passe, on n'a pas encore eu le temps de parler des clubs anglais et Philippe est là pour ça. Donc,
mais l'excuse des mecs qui sortaient pour dire que c'est qu'aujourd'hui ils peuvent tout se permettre, vous êtes à côté de la plaque. Ça n'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Et surtout sur le terrain, s'ils ne sont pas performants, ce qu'ils ne sont pas.
Et un petit cadeau de table qui tombe tout de suite.
Ils ne sont pas.
Qu'est-ce que j'ai à vous offrir ce soir? Ah bah oui, notre fameux coffret. Notre e-coffret pour une bonne dose d'adrénaline pour essayer la chute libre, la conduite sur circuit, le saut en parachute. Si vous voulez le gagner, vous envoyez After par SMS au 732-16. On se retrouve tout de suite. Ah, n'oubliez pas de vous rappeler le résultat quand même, si vous l'avez raté. Porto a battu Monaco 5-2. Et tous les autres résultats de Ligue des Champions sont sur rmcsport.fr.
RMC, le super football show, l'after foot, Gilbert Brébois.
Qu'est-ce que j'aime, elle vient du froid, elle vient de tout. Ces dribbles ne sont jamais les mêmes. Quand ils vivent sur la pelouse, ah mon billard, faut une petite laine. Sauf en été, il fait que moins 12. Sous les crampons, il met des chaînes. On se croirait au trophée Androse.
Il y a le temps,
près de Colmar. Des berbères, lui donnez le jour.
C'est vrai qu'il y a un hommage à Sochaux. Hommage à Johnny dans l'after ce soir. On a ressorti nos vieilles bandes. Hommage à Boudbouze aussi, en l'occurrence. Alors, Philippe, on est avec toi. On va parler des clubs anglais, mais aussi des autres. Fred Hermel nous rejoint. Fredo, bonsoir.
En direct de la froideur du stade Santiago Bernabéu.
Et Simone Rovera. Simone, bonsoir.
Ciao, bonsoir.
Philippe, es-tu étonné de voir 5 clubs anglais qualifiés ou est-ce que pour toi c'est d'une logique implacable?
Évidemment, c'est une logique implacable. Non, pas du tout. Je suis un petit peu étonné. J'espérais 4 sur 5. Mais
qui éventuellement tu ne voyais pas passer?
Tottenham. En me disant, le groupe est pas super étoffé, ils manquent d'expérience.
Ouais, c'était le seul groupe, c'était un peu chaud parce qu'il y avait Dortmund au début de la saison
et tout ça. Les autres, je me disais non, ça devrait le faire. En plus de ça, bon, si tu veux, la période de transition était passée, des entraîneurs qui ont quand même l'Europe dans le sang, comme Jürgen Klopp, comme José Mourinho, comme Pep Guardiola. On avait pour une fois des clubs aussi qui abordaient la Ligue des Champions dans un bon état. Alors que les années précédentes, t'avais souvent des clubs en transition où les clubs qui fonctionnaient bien, comme Chelsea par exemple l'année dernière, n'étaient carrément pas en Ligue des Champions. Là, c'était différent et ils ont parfaitement géré le coup. Cela dit, que les résultats aient été bons à ce point-là, je pense que non, personne pouvait le prédire. Je suis en train de regarder là le Tu sais, le fameux coefficient UEFA, qui n'a plus vraiment d'importance avec la nouvelle réforme. Mmh. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir le nombre de points recueillis par les clubs anglais alors qu'on finit la phase de poule. Ils en sont à 15,214. Ils ont recueilli plus de points à ce stade de la compétition que lors des trois années précédentes, quand tu allais jusqu'au bout, Ligue Europa et Ligue des Champions comprises.
Bon, après, tu vas me dire, l'essentiel, c'est de la gagner au final. Parce que...
Ouais, non, mais cela dit, bon. c'est un phénomène de vague également. Je veux dire, en plus de ça, on en parlait avec, enfin, Jérôme évoquait ça. Il n'y a pas véritablement de super favoris cette année. Tous les gros clubs, l'espèce de super élite qui s'était dégagée, l'Atlético, a dégagé. Le Real Madrid a des problèmes. Barcelone va bien. Barcelone va mieux. C'est peut-être un petit peu, je dirais, des gros, celui qui.
Alors, le Real, les problèmes sont relatifs, quoi.
Les problèmes sont relatifs.
C'est mais juste bon... que pour eux, c'est vrai, de pas être premier, c'est un peu bizarre.
Oui, mais ils ont aussi des problèmes en Liga qu'ils n'avaient pas d'habitude. Le Bayern, c'est pas le Bayern conquérant jusqu'à Weinkes il y a de cela quand ils ont joué.
Ah, c'est-à-dire que cette année, on pourrait ne plus avoir en épouvantail absolu Real et Barça, encore qu'il faudra quand même voir en
la
huitième
Juve,
ce que ça va donner.
Juve est aussi bonne.
Et qu'on pourrait avoir les Anglais qu'on n'avait pas vus depuis quelques temps un peu plus haut,
peu se rebiffer. Le Manchester City certainement, Manchester United a les moyens également.
Oui, de toute façon, ça va être des équipes qui vont être difficiles à sortir.
Toutes vont être très difficiles à sortir. Et j'inclus Liverpool là-dedans, et il faut quand même qu'on dise un petit mot de Liverpool, parce que je sais que ça n'était que le Spartak Moscou en face.
Ouais, c'est une belle démonstration.
Oui, offensivement, c'était. Ils ont joué au 4-2-4 ce soir. C'était parce que tout le monde se pose la question, comment tu fais pour jouer avec Coutinho, Firmino, Mané et Salah.
Quand t'as ces quatre joueurs-là.
Alors derrière, par contre,
tu vois, par exemple, on parle des trois du PSG qui sont ok, très bien, très forts. Oui. Mais là, on parle de Liverpool, leurs quatre joueurs de devant, c'est des bombes les mecs.
Ouais,
quand même.
Et quatre joueurs qui vont être au mondial, et quatre joueurs qui ont des chances de faire de grandes choses au mondial. Coutinho. Là, tu parles du mental et du caractère.
Comme Salah qui était très irrégulier
et qui est maintenant
énorme.
Meilleur joueur africain avec Sadio Mané.
Mané, on le voyait venir depuis longtemps. Il est très fort. Coutinho, c'est la classe internationale.
Absolument.
Alors, donc les Anglais sont au rendez-vous, Liverpool en particulier. Fred, la Liga espagnole est-elle toujours la meilleure Liga du monde, Fredo?
Ne pas oublier que Nkoudou a marqué. C'est un événement.
Hein?
Oui, Daniel.
Je repose ma question, Fred. La Liga espagnole est-elle toujours la meilleure Liga du monde?
Bien entendu. Jusqu'au preuve du contraire, on en reparlera en fin de saison. ça c'est clair. Mais simplement par rapport à ce qu'on disait sur les clubs anglais, la question a été posée à Ernesto Valverde, qui est vraiment quelqu'un, qui est pas du tout dans la propagande, etc. Et on lui a posé la question. Il dit, mais c'est normal que les Anglais soient là. Ce qui n'était pas normal, c'est que avec leurs moyens, les Anglais ne soient pas du tout là ces dernières années. Donc pour l'entraîneur du Barça, c'est vrai que on retrouve une certaine normalité avec des Anglais présents à ce niveau-là de la Ligue des Champions. Après la Liga espagnole, bon, c'est vrai qu'il y a eu cet accident de l'Atlético, ça fait 3-4. En Ligue Europa, ils devraient tous se qualifier. L'Atlético versé en Ligue Europa, c'est vrai qu'en plus la Liga elle est très compétitive. Là, il y a beaucoup de clubs qui se tiennent. Il y a beaucoup de points qui sont perdus. On va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Mais ce soir, bon, pour parler du match que je viens de voir, le Real Madrid avait un match presque amical face au Borussia qu'il a gagné 3-2. Cristiano Ronaldo a encore battu un record puisqu'il est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer dans chacun des matchs d'une phase de poule. Et puis, mauvaise nouvelle, un jour il faudra qu'on fasse un spécial là-dessus. Raphaël Varane s'est de nouveau blessé. Et ça commence à faire.
Tu sais ce qu'il a ou pas ?
Il y a un problème.
Oui, a priori, il a un problème à la jambe gauche. Nous a dit Zidane, demain il fait une IRM. Ouais. A priori, il sera pas là samedi.
Te pencher là-dessus, qu'est-ce que tu veux te pencher ? Il a un corps qui est fragile, quoi.
Ben oui, le problème, c'est qu'il enchaîne 3-4 matchs, il se blesse à chaque fois.
Ouais. Il a un corps qui est fragile. On en a vu d'autres, des très bons joueurs de foot qui ont été handicapés dans leur carrière.
Juste sur l'Espagne, je rajoute que FCB The Best nous le signale, c'est vrai que le Barça est la seule équipe d'Europe désormais, de la Ligue des Champions, à n'avoir perdu aucun match cette saison.
Mm-hmm. C'est vrai.
Voilà,
c'est pas ça. Ah oui, parce que City a perdu contre Shakhtar.
Exactement.
Et Paris hier, Bayern. Ah non, mais Paris a perdu contre Strasbourg.
Il n'y a pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça, en disant que les vérités du mois de novembre sont pas celles du mois de février, mars, avril, mai, et qu'on fera les comptes à la fin. Simplement, il y a une vraie réflexion, et là aussi, je vous propose qu'un soir on parle de ça, une réflexion sur les grands clubs espagnols vont avoir moins d'argent que les Anglais, et qu'à un moment, il va falloir réfléchir à d'autres manières d'investir. Le Real a commencé avec des très très jeunes joueurs. On achète très tôt des joueurs de 15, 16, 17 ans.
Si le Real se met aussi à faire ce genre de trucs que doivent faire normalement les clubs pauvres, on est mal barré.
Non, mais parce qu'ils estiment que de toute façon les revenus des clubs anglais vont être tellement faramineux, sont
encore,
déjà encore plus.
C'est quand le prochain appel d'offres, ça va encore augmenter. C'est
non, mais ça va encore augmenter. Bien sûr, ça va augmenter. Donc
ça voilà. Ça en 2019.
Ouais, donc voilà. Après, donc ils ont une vision à long
c'est
terme.
C'est sûr, ça,
donc...
qui va encore mettre de l'oseille pour.
Fredo, merci pour cette petite photographie espagnole.
Les voilà, et on écoutera. Ah ouais, un petit truc important,
rapide,
important. J'ai posé une question et on aura l'occasion d'écouter sur RMC Sport une question à Zizou sur le PSG. Et Zidane trouve que c'est extraordinaire. Pour ne pas dire hallucinant, ce qu'est en train de faire le PSG cette saison. Voilà, parce que c'est un rival possible des Madrilènes.
Merci Fredo.
Allez, là, franchement, ouais.
Salut. Simone, deux clubs italiens qualifiés. Bon, bah, c'est mieux que
c'est
pas la Coupe du Monde.
Hein. Mieux que rien, c'est correct.
Bah, c'est deux dont on s'attendait pas. La déception, c'était Napoli cette année, bien sûr. On s'attendait de voir Naples, au moins au tirage, de le voir passer. On se retrouve avec une Roma première, une Roma qui pourrait même avoir un très bon tirage. Il y a Bayern, oui, bien sûr, Real Madrid, mais les autres sont plutôt passables pour la Roma. La déception, c'est Naples, mais tout ce jeu sur ce premier match de la saison à Donetsk, cette défaite qui pèse très cher. Ce soir, le match de Naples est duré, on peut dire, jusqu'au but du Shakhtar. Après le but du Shakhtar, même Sarri l'a dit, même les joueurs l'ont dit, on a su que le Shakhtar gagnait. Et pour nous, la lumière s'éteint, on n'a plus joué, on n'avait pas la motivation, on avait compris que c'était fini pour nous. Et donc, Naples, la défaite de ce soir, ça reste, oui, dans l'histoire de la Ligue des Champions, même comme la quatrième consécutive à l'extérieur, en considérant encore le Real Madrid de la saison dernière, les trois de cette phase de poule, ça montre qu'il y a des limites dans le Naples version Europe. Mais c'est vrai que Naples a tout raté sur un match, c'est un peu triste, un peu dur peut-être, mais l'élimination part de septembre, ce match-là. Et c'est la grosse déception de la saison, mais
Naples,
on peut
Simone.
Voir... Roma.
Mais Naples, ils ont perdu, et ça arrive parfois en Ligue des Champions dans ces phases de poule. Naples a tout perdu, et sur le premier match, ce qui est quand même fou, hein, c'est-à-dire que tu t'en rappelles, hein, et sur l'ordre des matchs. C'est-à-dire le fait que ça se termine de cette façon, avec Shakhtar contre City déjà qualifié, et donc parfois, cet ordre des matchs est véritablement à prendre en compte aussi.
Alors,
n'était pas ridicule, mais les trois défenseurs 3 sur 4 c'était vraiment les titulaires pas top quand même, comme des... et les changements de Guardiola en certain moment sur cette année, on peut comprendre que bon, pour eux le match c'était terminé.
Merci Simone,
ciao, bonsoir,
ciao, buonasera.
Il est temps qu'on qu'il rentre parce qu'on
Il prend de l'isolement qui t'a dit, je sais pas ce qui se passe. Alors notre sondage CSA là, je vous en donne quelques résultats rapides, vous pourrez en reparler demain soir avec Nicolas Villas qui sera à ma place parce que c'est assez intéressant, petit sondage RMC BFM Sport CSA. Oui, mais si on choisit d'en parler, on peut en parler quand même. Deschamps sélectionné est-il l'homme de la situation? 59% des Français disent oui, donc c'est massif. Le top
59,
5,
c'est pas massif.
Bah, 60%, oui, moi ça me paraît assez massif.
Ah bon, tu trouves?
Le top 5 des joueurs préférés des Français, tiens, à votre avis?
Bah, Griezmann en 1, toujours.
Griezmann en 1, 30%.
Mbappé
en 3, 13%.
Bah, ouais. Pogba en 2?
Non, Pogba n'est pas dans les 5 premiers des joueurs préférés des Français. Hugo Lloris est deuxième en 14%. Ouais. Vient ensuite Olivier Giroud, quatrième. Ouais. Puis Dimitri Payet, cinquième.
Dimitri Payet.
Eh oui. Et attention, parce qu'on affine, le top 5 préféré, le top 5 préféré des fans actifs, c'est-à-dire des vrais fans de foot. 1, Griezmann. 2, Mbappé. 3, Giroud. 4, Pogba. 5, Payet. Donc, alors, en l'occurrence, Lloris sort, peut-être parce qu'il est gardien. En tout cas, voilà.
Il n'y a pas une grande différence.
Autre question. Opinion générale de l'équipe de France, positive à 54%. Donc là, c'est pas massif.
C'est pas génial.
En l'occurrence. À quel stade pensez-vous que la France va aller à la Coupe du Monde?
19 Novgorod.
39% des Français disent demi-finale ou finale. 17% des Français les voient vainqueurs. Bon. Dernière question. Souhaiteriez-vous que Karim Benzema participe à la Coupe du Monde? 18% des Français disent oui, 51% des Français disent non, les autres ne se prononcent pas. 51% de non, 18% de oui.
Combien? Seulement 18 de oui?
18 de oui.
Quand tu vois le bazar qui est organisé sur les réseaux sociaux par les gens qui l'entourent, c'est quand même dur de se confronter à la réalité.
On pourra demain revenir sur ce sondage éventuellement que vous retrouvez sur BFM Sport et sur rmcsport.fr dans le détail. Philippe Percy est passé.
Comme quoi, elle n'est pas là, Jérôme, la réalité. Ouais. Elle n'est pas dans cette petite 5, boîte.
2 la réalité. Pour Porto
elle n'est pas
face
dans
à Monaco.
Téléphone, la réalité. Loin de là.
Jérôme, loin de là. À demain.
Ouais, à demain.
Daniel, à demain.
Ciao.
Demain sur l'After, dès la fin des matchs d'Europa League, bien sûr. Bonne nuit à tous.
RMC, le super football show, l'After Foot.